Pas faux. Il est certain que nos maîtres de cette époque étaient pour la plupart des vieux crabes, méchants et d'un despotisme effrayant, pas du tout disposés à parler, à négocier, à discuter, assez loin des étudiants, très souvent. La preuve, c'est leur disparition complète, la disparition complète de la plupart. Je ne parle pas de tous, car certains ont été présents. Vous me parliez de Perret, je pourrais vous parler de Roland Mounier, qui a été relativement présent pendant les événements, mais enfin, la plupart ont disparu. Vous savez, ce n'est pas souvent des hommes très intéressants, point de vue moral, souvent des savants, certes, mais ils n'avaient pas une très haute conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la jeunesse qu'ils avaient en charge, et vis-à-vis des jeunes assistants qui étaient les leurs. Quand je raconte maintenant aux plus jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur la manière dont moi j'étais traité par ces gens-là, l'un d'eux m'avait dit une fois, « Monsieur, vous avez la conscience de la Sorbonne est plus importante que vous. » C'était sans doute vrai, mais enfin, c'était quand même des façons de traiter les gens qui étaient bizarres. C'était bizarre et de peu d'humanité. Et vis-à-vis des étudiants, c'était bien souvent la même chose. Et puis surtout, cet éclectisme de ces professeurs qui ne servaient pas la vérité. Beaucoup d'entre eux ne servaient pas la vérité. Ils servaient leur savoir, leur propre savoir. Ils servaient l'érudition. Ils servaient leur carrière, leur réputation. Mais ce n'était pas très exaltant pour la jeunesse. Oh, bien sûr, nous n'avons pas tous les jours à distribuer un message. Certes, nous ne sommes pas là pour faire tous les jours de l'apostolat. Mais enfin, les étudiants et les jeunes universitaires ne sentaient pas chez ces prétendus maîtres le désir profond de servir la vérité. Alors, il y avait cela aussi. Et puis alors, il y avait le fait que le monde intellectuel de l'époque était déjà prêt à toutes les trahisons, était déjà prêt à soutenir toutes les trahisons, à trahir l'autorité, à refuser l'autorité, à la dénigrer dans toutes les circonstances et à pourrir la jeunesse chaque fois que cela était possible. L'intellectuel de l'époque, la plupart du temps, c'est déjà quelqu'un qui a pour mission de faire douter de tout, qui se donne pour mission de faire douter de tout, qui affirme qu'il n'y a pas de vérité, et que ceux qui disent qu'il y a une vérité sont des fanatiques, et que par conséquent ces gens-là sont à éliminer, car ils sont féroces. Leur tolérance s'exerce vis-à-vis de tous, sauf vis-à-vis de ceux qui servent la vérité, qu'ils refusent. Alors ces gens-là ont pourrit le climat intellectuel et ils ont permis à la Révolution de grandir sans cesse. La Révolution, cette force destructrice, cette force qui veut anéantir les fondements même de la société, eh bien, elle profite infiniment de ce climat intellectuel, car elle ne trouve aucune résistance devant elle. Elle avance sans difficulté. Elle se propage naturellement. Rien ne s'oppose à elle. Et ce sont les intellectuels qui ont créé ce climat de non-résistance. Alors, il y a eu, voyez-vous, dans le passé, des révolutions qui ont rencontré une résistance. Je pense en particulier à la révolution de 1789. La révolution de 1789 a trouvé devant elle une résistance matérielle, par la force physique. C'est la résistance des Vendéens, par exemple. Et puis une résistance spirituelle, très forte. Tandis qu'en mai 68, rien du tout. Enfin, rien du tout, très peu de choses. Alors finalement, que se passe-t-il? Y a-t-il échec ou succès de ce mouvement de 68? On pourrait dire que, dans une certaine mesure, mai 68 a échoué. Mai 68 a échoué parce que mai 68 n'a pas renversé le régime. En juin, ce sont des élections triomphales. La majorité n'a jamais été si nombreuse. Les partisans du général de Gaulle exultent. Alors pourquoi? Pourquoi? Il y a eu pourtant des essais pour renverser le régime. Les communistes y ont pensé un moment. Dans le courant du mois de mai, les socialistes y ont pensé eux aussi. Il y a eu la fameuse manifestation du stade Charletti, manifestation organisée par les socialistes. Mitran est venu ce jour-là et a dit carrément que, enfin, il était candidat, qu'il était là. Il a dit dans cette allocution, il n'est pas question de donner le pouvoir à n'importe qui, mais sous-entendu, si on pense à moi, je suis présent. Déclaration qui a fait très mauvais effet, d'ailleurs. On s'est dit, qu'est-ce qu'il veut, celui-là, il se pousse, les étudiants ont trouvé cette candidature déplacée. Récupération, ont-ils dit. Ils n'en sont plus là, les étudiants. Ils n'en sont plus là. Ces étudiants en 68 étaient très déplaisants, hein, très prétentieux, mais ils avaient quand même un niveau intellectuel supérieur à celui de ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont même pas capables de réagir devant des récupérations de ce genre. C'est là qu'on voit quand même la différence. Je ne dis pas que ceux d'aujourd'hui sont antipathiques. Non, ils sont très sympathiques. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, les imbéciles peuvent être sympathiques. Non, ce ne sont pas des... Je m'empresse de dire ce ne sont pas des imbéciles. Mais ce sont des imbéciles, si vous voulez, au sens compréhension des événements. Ils n'ont pas l'esprit critique. Donc, mai 68 n'a pas renversé le régime, malgré les différentes tentatives ou tentatives de récupération. Pourquoi ? Mais parce que cette révolution, c'est une fausse révolution. C'est un faux semblant de révolution. C'est une comédie. Comédie. Pourquoi ? Parce que personne ne veut verser son sang. Personne ne veut donner sa vie. Vous savez, vous connaissez sans doute l'histoire de ce député, n'est-ce pas, qui avait été mort sur les barricades pour que les ouvriers soient un peu mieux payés. Hein, c'était le député Baudin. Il avait dit, vous allez voir comment on meurt pour 30 sous par jour. Eh bien, dans les révolutions de 89, 1830, 1848, il y a des hommes, certainement, de bonne foi, qui se sont fait tuer pour la révolution et pour l'amélioration de la condition humaine, sans aucun doute. Personne ne veut se faire tuer. D'abord, le pouvoir ne veut tuer personne. Vous comprenez ? Si le pouvoir avait voulu tuer des gens, à ce moment-là, peut-être qu'en face, il y aurait eu des vocations. Mais là... Là, le pouvoir a dit surtout rien, pas d'incident, rien du tout, gardez-vous bien de répondre. Moi, j'ai vu des malheureux CRS, des hommes de 35 ans, 40 ans, des pères de famille, des nuits entières, des gardes républicains aussi, des nuits entières, immobiles, stoïques, sous la pluie d'injures, d'ordures, de pierres, ne bougeant pas. Alors, ils ne réagissaient, je vous l'ai dit, qu'au petit matin pour nettoyer le quartier. Donc, du côté du pouvoir, on ne veut pas de sang. Et en face, on n'est pas donc... On n'est pas incité à se sacrifier, à donner sa vie. Seulement, il faut aussi satisfaire les médias qui ont besoin de dramatique, de tragique. On ne peut pas leur donner du sang, du faux sang, bien sûr, se barbouiller. Non, ce n'est pas possible, on n'est pas quand même au cinéma. Alors, on joue à la guerre. On joue à la guerre, je vous ai parlé tout à l'heure de ces Katangais, qui sortaient, les bravaches. Le soir, quand on partait aux manifs, alors on se mettait des mouchoirs sur la bouche à cause de... C'était nécessaire, d'ailleurs, parce que alors les grenades lacrymogènes, ça, la police en faisait une utilisation massive. Mais enfin, on s'armait de gourdins, on prenait des pierres, on partait en rang serré, il y avait des escouades, enfin bon, des drapeaux. J'ai vu des escouades marcher derrière des drapeaux noirs, des drapeaux rouges. On chantait même, il y avait même des chants révolutionnaires. On jouait à la guerre. Mais tout le monde était bien d'accord, des deux côtés. On jouait à la guerre, mais on ne la faisait pas. Et puis, aurait-on vraiment pu faire la guerre ? Il y avait trop de gendarmes. Vous comprenez, quand un pouvoir dispose de plus de 100 000 policiers sur la capitale, quelques malheureux Katangais et pauvres zèbres de l'UNEF et autres, que peuvent-ils ? Non, ça fait rire. Et tout le monde le sait. C'est plus possible de faire une révolution violente. Ce n'est plus possible. Je ne dis pas que je le regrette. Mais enfin, il faut bien le constater. Et d'ailleurs, si on pouvait la faire, elle serait faite depuis longtemps dans certains pays. C'est une des contraintes, un des blocages les plus invraisemblables, les plus effrayants de la société contemporaine. On nous a toujours parlé depuis 1789 du droit à la révolte. Bon, certes, il existe toujours, on le proclame toujours, mais on ne peut plus l'exercer. Ce n'est plus possible. L'État a tellement grandi qui n'empêche toute expression de ce genre. Alors, tout le monde savait très bien que le nombre, l'effectif des forces de police empêchait toute révolution. Et puis, dans la nuit, on entendait rouler autour de la capitale les chars de l'armée, lesquels n'avaient qu'une idée, les officiers, les troupes, n'avaient qu'une idée, c'est d'en découdre, d'entrer dans cette ville pourrie, de nettoyer ça, d'envoyer tous les gauchistes dans les commissariats et de faire litière de tout ce mouvement. Ils attendaient avec impatience. Ils entendaient, on entendait ça, vous voyez, mais venant de toutes les garnisons, puis autour de près de Camp Satori également, il y avait une réserve importante de troupes et de chars. Et évidemment, les gauchistes et les communistes le savaient. Le soutien communiste au pouvoir a joué également un rôle, je vous le disais tout à l'heure. Ce sont les communistes, finalement, qui ont empêché le renversement du régime, sans aucun doute. Ce sont eux qui ont ramené l'ordre. Il y a eu les accords de Grenelle, qui ont démobilisé la classe ouvrière, qui ont d'ailleurs créé une inflation extraordinaire. En un an et demi ou deux ans, les avantages obtenus étaient annulés par l'inflation. Et puis alors surtout, la réforme de l'université. De Gaulle a accompli ses promesses. Le 24 mai, il avait annoncé des réformes. Très peu de temps, il nommait M. Edgar Faure ministre de l'Éducation nationale et le chargeait de réformer l'université, non pas selon des contraintes séculaires, mais pour adapter l'université au monde moderne, comme il l'avait dit dans son discours du 24 mai. Et alors, cette réforme de l'université, quelle était-elle? Mais c'était celle que demandaient les communistes. C'était celle que les affiches et les tracts et les placards des communistes réclamaient. C'est-à-dire ceci. Livrer l'université à des conseils irresponsables. Donner le gouvernement des universités françaises à des conseils composés à près de 50% d'étudiants, issus de mouvements politiques, bien entendu, et n'admettant dans ces conseils qu'une toute petite minorité de professeurs. Toute petite minorité de mandarins, ou leurs successeurs. Voilà. Alors, cette réforme de l'université, Edgar Faure l'a faite, et ça a calmé tout le monde. C'est ce que demandaient les communistes. Et ils avaient dit, on ramènera l'ordre, mais à la condition que vous nous donniez cette réforme. Parce que les communistes préfèrent bien un pourrissement lent de la société à une révolution violente, qui est d'ailleurs tout à fait improbable, et dont les résultats sont imprévisibles. Si donc l'échec de mai 68 est l'apparence, la réalité est son succès. Est son succès. Mai 68 n'a pas renversé le régime, mais cette révolution marque une étape importante dans la dégradation de la France. Dans la dégradation du savoir, l'université a été livrée au conseil irresponsable. La révolution pédagogique, qui a été commencée par le gouvernement du général de Gaulle, dès 1961, pas l'oublier, cette révolution pédagogique, révolution de la manière d'enseigner, appauvrissement des programmes, suppression du latin en sixième, suppression du certificat d'études, suppression de la grammaire, destruction de l'enseignement des humanités, appauvrissement inquiétant de l'enseignement des langues, on n'enseigne plus ni grammaire ni vocabulaire. Enfin, tout cela, tout cet ensemble, cette révolution pédagogique a été commencée par le gouvernement gaulliste dès 61, dès 60-61. C'est la mise en application d'un programme que le Parti communiste avait établi dans les années 45-46, mais qu'il n'avait jamais osé même appliquer, et dont il n'avait même pas osé demander l'application au gouvernement de la 4e République. Seulement voilà, en 58, De Gaulle revient. Et s'il revient, c'est en partie avec l'accord de la CGT et du Parti communiste. Il y a eu certainement là une négociation, dont un jour nous apprendrons sans doute les modalités, un accord, bon, vous revenez, il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas de protestation, il n'y a rien, mais alors nous réclamons un certain nombre de secteurs. Et je pense que l'éducation nationale a été un des secteurs livrés aux communistes à ce moment-là. Alors, cette révolution pédagogique, je l'ai pu l'observer moi-même de façon très attentive en lisant le bulletin officiel de l'éducation nationale, tout simplement. Il faudrait faire une étude là-dessus, sur les réformes adoptées par le gouvernement gaulliste à partir de 61. Dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement primaire et un peu plus tard dans l'enseignement supérieur. Donc 68 n'a fait qu'accélérer la réforme pédagogique, mais lui a permis, la révolution pédagogique, mais lui a permis de conquérir un secteur sur lequel jusqu'alors elle n'avait que peu de prise, l'enseignement supérieur. Parce que justement les mandarins qui avaient leur défaut s'y opposaient. Vous prenez les assemblées de facultés jusqu'en 68, c'était uniquement les professeurs, les mandarins. Bon, ils avaient leur défaut, je vous ai dit leur lâcheté. Je vous ai dit le mépris dans lequel il tenait la communauté étudiante. Seulement, malgré tout, il tenait à certaines règles, il tenait au savoir qu'ils avaient appris et qu'ils dispensaient. Alors, il s'opposait par tous les moyens à une réforme pédagogique de l'université. Si bien que De Gaulle, lorsqu'il a vu le mouvement étudiant, a vu tout de suite ce qu'il pouvait en faire. Il pouvait faire entrer la révolution pédagogique dans l'université. Et c'est pourquoi, dès le 24 mai, il dit « Oh, le temps est venu, le temps est venu, où nous pouvons préparer la mutation de l'université, non pas selon des pour revenir à des contraintes séculaires, mais pour l'adapter au monde moderne. » De Gaulle saisit l'occasion pour faire entrer cette réforme pédagogique, promise aux communistes depuis les années 60, pour la faire entrer dans l'université. Alors on a dit, De Gaulle n'aimait pas l'université, il méprisait les universitaires, parce que les universitaires étaient de gauche. Baliverne. Oh, certes, les professeurs n'étaient pas très tendres pour De Gaulle. Et une fois, en 1960, De Gaulle avait voulu visiter la Sorbonne, et les professeurs avaient refusé de le recevoir. Évidemment, ce n'était pas un roman d'amour. Mais, à mon avis, ce n'est pas la principale raison. La principale raison, c'est l'occasion trouvée. L'occasion trouvée, la révolution étudiante va nous permettre d'accomplir pleinement notre révolution pédagogique. La participation. La participation, c'est le thème gaulliste. Ce n'est pas seulement la participation des ouvriers à la marge de l'entreprise, c'est la participation des usagers étudiants au gouvernement de l'université. Et en ce sens, il n'y a pas de différence entre la politique de M. Savary, vous vous souvenez, je pense, c'est quand même pas si vieux, hein, et celle du général de Gaulle. Que disait M. Savary en parlant des étudiants? Il disait, ce sont des usagers. Il faut donc qu'ils participent. Et que disait de Gaulle? La même chose. Voilà, enfin, vous voyez, il est quand même important de se souvenir de ces choses. Ou si on ne s'en souvient pas, de les apprendre. De les apprendre, car rien n'est plus critiquable que la paresse intellectuelle. Surtout quand elle s'exerce sur ce domaine qui est celui de l'histoire récente. Il faut quand même savoir, c'est un devoir pour nous, ce qu'ont fait ces hommes qui nous gouvernent ou prétendent nous gouverner. Ou bien alors nous vivons dans un monde absurde. Nous prenons les gens uniquement pour la tranche de vie où ils s'agitent devant nous. Et nous ne voulons pas savoir ce qu'ils ont fait avant. Alors nous leur confions malgré tout le sort de notre pays. C'est pas grand-chose de mettre un bulletin dans une urne, mais enfin quand même, c'est un petit quelque chose. Bon, mais je ne veux pas faire d'application à la situation présente, vous pensez bien. Bon, et puis enfin, c'est à partir de 68 que la permissivité et le laxisme, vous le savez, se sont répandus dans les familles, dans la société française. L'esprit 68-art a littéralement empoisonné la société. Ce n'était pas brillant avant, mais enfin, il y avait encore l'hypocrisie, c'est-à-dire cet hommage que le vice rend à la vertu, elle disparaît. 68 a fait disparaître l'hypocrisie. Alors on l'a divorcé, allègrement, et c'est à ce moment-là que les pratiques de contraception et d'avortement ont connu un succès grandissant. On a eu peur des enfants. Vous savez, c'est... Mais 68, c'est une leçon sur les enfants. Alors, on a peur des enfants. Et il vaut mieux ne pas en avoir, s'ils sont capables de brûler les voitures. C'est un peu ça. Vous savez, la peur de l'enfant, elle vient un peu de là. Dans l'inconscient collectif, comme on dit. Je ne crois pas, d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé, c'est pas la peine de parler d'inconscient. Parlons tout simplement de mémoire. La peur de l'enfant révolutionnaire a beaucoup compté depuis 20 ans. Cette hantise qu'ont les Français, un enfant, c'est un péril. Est-ce que ça vient pas un peu de là? Alors donc, mai 68 a fait peur aux Français. Et grâce à quoi les Français ont continué à voter à droite, enfin à droite, ce qu'ils croyaient être à droite, pendant une décennie. Ah oui, ça a compté. Vous vous en souvenez pas de ça, mais ça a compté énormément. À chaque élection, on brandissait le spectre de 68. C'est moi ou le chaos, hein, c'est moi ou le chaos, et ça a marché pendant 10 ans, mais quand le souvenir de mai a commencé à s'effacer, eh bien les Français ont commencé à voter à gauche, ainsi que les y invitait une propagande considérablement renforcée depuis 68. Il a fallu 10 ans pour que le souvenir s'estompe, s'efface. Et puis alors, ce fut mai 81. Ce fut mai 81, vous voyez, il a fallu 13 années pour que ça disparaisse complètement. Et alors mai 81 a effacé mai 68. C'est l'apothéose, c'est le peuple de gauche, c'est l'union dans la révolution pacifique. Et c'est pourquoi on a oublié, je reviens à mon point de départ, et c'est pourquoi on a oublié mai 68, et c'est pourquoi on s'efforce de le faire oublier. Les gaullistes d'un côté, parce que le rôle qu'ils y ont joué n'était pas extrêmement honorable, et les autres, parce que mai 68 fait peur à la droite. Alors tout le monde est bien d'accord pour qu'on n'en parle plus. Et c'est pourquoi je vous en parlais ce matin. Voilà. Alors si vous avez s'il y a des points obscurs ou des choses que j'aurais oubliées, je suis tout prêt à ajouter, à compléter.
Le rôle des clergés, des évêques, etc.
Ah oui, je n'ai pas parlé, mais dès le soir dans la nuit du 11 ou 12 mai, vous savez, la grande nuit des barricades, dans cette nuit-là, les autorités religieuses sont intervenues. Le cardinal Marty a prononcé une allocution, enfin, il a été interviewé sur un poste périphérique vers 1h ou 2h du matin pour protester contre les brutalités policières. Et puis, alors, lors de la deuxième nuit des barricades, la nuit du 24 au 25, celle qui a suivi la première allocution du général de Gaulle, Marty a envoyé certains de ses conseillers à la Sorbonne pour apporter des médicaments et des secours aux étudiants en lutte. Et d'ailleurs, on était gênés parce que Marty et Segui, qui était le secrétaire général de CGT, avaient à peu près la même voix à la radio. Vous savez, ils avaient l'accent du côté de Toulouse, là. Ils parlaient de la même manière. Alors, on ne savait jamais lequel s'exprimait. Ah oui, eh bien, ils se sont surpassés dans cette affaire. C'était la grande époque conciliaire, vous comprenez, 68 aussi. C'est la grande époque conciliaire et la résistance à la révolution conciliaire n'était pas encore bien organisée. D'ailleurs, un certain nombre de places n'avaient pas encore cédé. On trouvait encore dans certaines paroisses de Paris des prêtres très convenables. Alors, on ne se rendait pas très bien compte de ce qui se passait. Oui, les autorités religieuses, bien sûr, ont donné là-dedans. On ne pouvait pas en être autrement.
Que viennent aujourd'hui les leaders du mouvement
étudiant ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, Cohn Bendit a été interviewé récemment à la télévision, dans l'émission de Bernard Pivot. Je me souviens, il a été interviewé en même temps que François Bluche pour le livre sur Louis XIV. Je ne sais absolument pas pourquoi on l'avait fait. Il a refait surface. C'est un personnage considéré et relativement considérable.
Il est revenu aux événements de la première révolution.
Oui. Il en a parlé ?
Il est revenu dans les facultés.
Ah, il est revenu dans les facultés. Oui, il s'est montré, effectivement, en décembre 86. Voilà, c'est ça, on l'a exhibé. J'allais dire exhumé.
Le grand ancêtre.
Oui, le grand ancêtre, oui. Oh, c'était un gros type, assez sympathique d'aspect, oui.
Je viens d'une interview sur, enfin, je crois que c'est il y a quelques temps, la journal avait publié, qui est devenu Jacques Sauvageau.
Oui, Sauvageau.
Et en fait, il expliquait qu'ils sont dans des écoles dans les ministères, je crois, des écoles
d'apprentissage. Oui.
En fait, on continue.
Oui.
On n'a pas perdu notre idéal révolutionnaire, on continue.
Oui.
Mais c'est une autre forme maintenant, c'est plus un
état d'esprit. Voilà. Gessmar a été pendant un certain temps exclu de l'université et puis réintégré. Réintégré. Il était maître assistant à la faculté des sciences de Paris, je crois, quelque chose comme ça. Quant à Sauvageau, c'était le fils de Madame Sauvageau qui était un des patrons du groupe de presse de la vie catholique. Ouais. Laquelle est morte tragiquement d'ailleurs, dans un incendie de forêt, je ne sais où, dans le Midi, Madame Sauvageau.
Et que Madiran est un gueulien.
Voilà. Ah oui.
Et vous pensez que le communisme, par en 68, malgré les 100 000 policiers, l'armée, etc.,
oui,
n'aurait pas pu, dans un physiquement, prendre le pouvoir?
Oui, je ne sais pas, c'est très difficile à dire, mais je crois qu'il y avait une sorte de contrat implicite ou peut-être explicité de certaines manières entre le mouvement gaulliste et les communistes. Vous savez, la visite que fait De Gaulle à Torres au lendemain de la libération a une valeur très symbolique. Torres était un déserteur, vous le savez, il aurait mérité le peloton d'exécution. Et De Gaulle, en lui faisant cette visite dans sa mairie de la banlieue parisienne, je ne sais plus quelle était cette ville de banlieue, a accompli un geste symbolique. Je reviens, mais je reviens en partie grâce à l'appui communiste. Vous savez d'ailleurs que dans les mois qui ont précédé le retour du De Gaulle en France, ça on le sait pertinemment, il a négocié avec les communistes. Alors depuis ce temps-là, il y a une espèce de contrat comme il y en a entre des malfaiteurs.
Hein. Donc, imaginons qu'il n'y ait pas de contrat, par exemple,
oui.
En soi, je les ai considérés, parce que malgré la police, l'armée, etc.,
Je pense qu'ils auraient pu, car déjà la CGT noyautait un certain nombre de services publics. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'état de la police, l'état moral, l'état intellectuel de la police, enfin des chefs de la police. Ça, on ne le sait pas, c'est une inconnue. Alors, évidemment, ça compte beaucoup.
Et le préfet de Cagnolo était
annoncé
par la
CGT. Oui. Il était à gauche. Oui. Les hauts fonctionnaires de police sont des civils, n'est-ce pas? Alors, la garde républicaine, qui a quand même joué un rôle important dans le maintien de l'ordre, enfin, relatif, quel était son état d'esprit? On n'en sait rien. Enfin, l'expérience contemporaine montre qu'en France, il n'y a pas de pouvoir militaire. Il n'y a pas de pouvoir militaire. Quand il y a une réaction militaire, comme celle du putsch de 61, elle avorte. Elle avorte parce que les militaires français sont pénalisés par l'obéissance. Et puis alors, depuis que ce sont des électeurs, depuis qu'ils votent, ils se sentent mal à l'aise, ils ne se sentent pas comme une véritable force dans la nation, ils sont assimilés en somme au corps des citoyens et ils n'osent pas s'élever contre un pouvoir injuste. Alors je pense qu'on ne peut pas... On peut penser que les communistes avaient tous les moyens de s'emparer du pouvoir et que l'armée elle-même, je ne parle pas de la police, l'armée elle-même n'aurait peut-être pas opposé une véritable résistance. Elle ne l'aurait pas fait. D'ailleurs, il y a des précédents, vous savez, quand vous voyez la révolution russe en 1917, il y avait des régiments fidèles, il y avait quand même dans la région de Moscou, de Saint-Pétersbourg, il y avait quand même des troupes fidèles. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Finalement, quelques poignées d'hommes se sont emparés du pouvoir. Des centrales, des points stratégiques, sans rencontrer finalement la moindre résistance. Alors on dit toujours l'armée, c'est un mur, un barrage à la révolution. Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est un instrument entre les mains du pouvoir. C'est quel que soit par ailleurs l'idéal très noble que peuvent cultiver un certain nombre d'officiers, mais il n'y a pas que ça qui compte, il y a le caractère. Alors, est-ce que la formation militaire, alors là, bon, nous quittons le domaine, est-ce que la formation militaire est une formation du caractère? Pour l'avoir subi moi-même, comme tout bon Français, je dis que ça dépend du bonhomme qui la reçoit. Ça peut former le caractère si le bonhomme est disposé à se former le caractère de cette manière. Sinon, ben c'est très superficiel. Ou bien alors ça en fait un automate. Un homme qui plie devant tout commandement. Et ce sont des choses qu'il faut étudier parce que, justement, l'avenir de la nation en dépend. Il faut réfléchir sur ces questions-là. Moi, j'ai bien vu comment il y a eu certainement au moment de l'Algérie française, il y a eu de très nobles... résistance, de très noble révolte, condamnée à l'échec d'ailleurs dès le départ, parce que manquant de préparation, manquant d'organisation. Mais quand même, que s'est-il passé? Il y a eu... Tout le monde s'est couché, presque tout le monde. Chez les officiers, je parle des officiers et des sous-officiers. Et Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de solidarité en faveur des camarades emprisonnés. Hein. Et Dieu sait pourtant si les prisons en étaient pleines. Oh, on a dit, oh, c'est bien malheureux, il était bien gentil, bon, mais...
On a
peut-être
un ménage là, il n'y a pas qu'il y a des colonels et des généraux qui ont fait une... Avant les élections, là.
Oui, il y a eu 100 généraux, mais à la retraite, attention. Attention, à la retraite. Moi, j'ai, en lisant ça dans le Figaro, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, ces types-là. Mais c'était des types à la retraite. Alors, vous comprenez, c'est très confortable. À moins qu'on leur coupe la retraite, si on leur avait dit, on va vous couper la retraite, alors là... Mais là, si on fasse déclarer en faveur de Chirac, ça ne demande quand même pas un héroïsme considérable. Ouais. Alors voilà, ça, je pense que on serait... Alors les officiers, les jeunes officiers auraient été contents, évidemment, de pouvoir donner une leçon aux gauchistes, hein, ça, ils auraient été contents. Mais c'est pas eux qui comptent dans un mouvement comme ça. Oui. Alors les commissions, ben moi j'ai fait partie d'une commission, comment ça s'appelait-elle, je ne me rappelle plus. C'était une commission qui était chargée de... Elle était chargée de recueillir et de comptabiliser les dons qui étaient faits au mouvement de la Sorbonne occupée. Alors, j'avais été désigné parce que chaque discipline envoyait des représentants, étudiants et professeurs. Alors, les professeurs, il n'y en avait plus. Alors, nous étions trois assistants d'histoire qui étaient restés dans la Sorbonne. Puis moi, j'ai même couché trois nuits dans la Sorbonne pour garder les papiers de mon centre de recherche. Et alors j'ai été envoyé donc à cette commission, et comme j'étais curieux de toute chose, et curieux d'une révolution qui se faisait sous mes yeux, j'y suis allé. Et alors là, ben, il y avait, nous étions une vingtaine de personnes, il y avait la moitié d'étudiants, la moitié d'assistants. Le président était quand même un professeur, c'était le professeur Droz, professeur d'histoire de l'Allemagne, un grand universitaire. Et alors, on pérorait, ça durait très longtemps, ça durait 4 ou 5 heures, chaque réunion. Et ceux qui parlaient le plus, c'était les représentants de la JEC, de Jeunesse étudiante chrétienne. C'était des bavards impénitents. Alors, on faisait des motions. Le travail essentiel consistait à faire des motions. Des motions pour sensibiliser le mouvement à notre campagne de rassemblement, de dons, d'argent, ben alors on faisait des motions, et on demandait des signatures. Alors la rédaction de ces motions occupait les trois quarts du temps. Il s'agissait de savoir comment les rédiger, quel verbe il fallait employer, quel mot, enfin bon, et ça durait indéfiniment. Il y avait donc des discours et des discours. Alors la moitié d'entre nous se fatiguait, les trois quarts, on partait, puis quand on était parti, ceux qui restaient rédigeaient le texte définitif, et qui ne ressemblait absolument pas à ce que l'on avait étudié. Et puis ces derniers, là, ces gens qui étaient restés, fixaient le lieu de la prochaine réunion. Alors ça dépendait. Si la réunion devait être importante, si l'ordre du jour était important, à ce moment-là, le lieu et le jour n'étaient pas annoncés aux autres. Si c'était un sujet stupide, n'importe quoi, alors à ce moment-là, on diffusait largement l'annonce de cette prochaine réunion. Et c'est ainsi que j'ai été piégé plusieurs fois. J'ai appris que ma commission s'était réunie à Sancier ou ailleurs, alors que je la croyais toujours au même endroit. Voilà comment ça fonctionnait. Et alors, il y avait aussi une technique, c'est la démultiplication des commissions. La commission se scindait en deux ou trois sous-commissions, lesquelles se scindaient elles-mêmes. Si bien qu'au bout d'un certain temps, on se demandait, on arrivait dans une pièce, on était trois, on se disait, mais à quoi servons-nous ? Qu'est-ce qui dit ça ? C'était absurde. Et alors ça, c'était une technique employée au sujet des commissions qui manifestaient quelques personnalités, qui avaient l'intention de faire quelque chose, au lieu de se contenter de parler. Alors ces commissions-là, très vite, elles disparaissaient. On n'en parlait plus. Ou bien alors, certaines commissions qui étaient investies de pouvoirs importants en étaient débarrassées très rapidement. Ce pouvoir était transféré à d'autres comités, créés clandestinement, et qui avait le pouvoir réel. Cette technique est encore aujourd'hui employée. Par exemple, moi, je fais une partie de la mission du bicentenaire de la Révolution. Cette mission est composée moitié-moitié par des gens, des communistes, des francs-maçons, puis l'autre moitié, c'est des gens, bon, des braves gens, quoi, puis j'y suis, moi aussi. Et alors, cette commission était encore trop modérée, et elle n'a maintenant plus aucun pouvoir. tout le pouvoir de cette mission du bicentenaire est passé à des comités, des commissions qui ont été créées pour le débarrasser de ses pouvoirs.
Mais là, vous pensez qu'en 68, alors, c'était, il y avait vraiment des gens conscients sur ces techniques, de la manipulation?
Non, personne. Personne n'est au courant.
C'est un phénomène qui change en lui-même, dès qu'on est réunis.
Oui, mais enfin, ça doit être une technique utilisée depuis qu'il y a des révolutions. Je pense que ça a dû être utilisé dans les sociétés populaires et les comités de surveillance en 1793 pour éliminer les adversaires. On a dû l'utiliser également en Russie au début du pouvoir des soviets pour éliminer les mencheviks, par exemple. Les bolcheviks ont dû procéder de la même manière. Ce sont des techniques qui étaient, je crois, connues depuis longtemps. Et puis alors, il a fonctionné dans les années, depuis 1945, dans les universités françaises, des laboratoires de sociologie où on préparait ouvertement la révolution. Par exemple, le laboratoire du professeur Lefebvre à Nanterre faisait du combat de rue sur des tables avec des maquettes. Et ce Lefebvre était un sociologue réputé, marxiste, et c'est lui qui a formé Cohn-Bendit, qu'il avait comme élève, ainsi que la fille de Missoff, qu'il avait aussi comme élève. Alors là, il y a eu des laboratoires, on a étudié sans doute de très près les techniques du combat de rue et également de l'Assemblée Générale, de la Commission et tout ça. Ce sont des suppositions parce qu'au fond, nous n'avons pas de documents. Nous avons quelques témoignages et mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Nous reconstituons. Tout ça n'a pas laissé de traces écrites, ou très peu. Très peu. L'étude des révolutions est très difficile à faire à cause de ça. Parce que les crimes, les forfaits, ne laisse une guerre de traces. Alors on ne sait pas. Et c'est pourquoi les historiens de la Révolution française parlent toujours du complot, de la conspiration jacobine, du complot maçonnique, sans pouvoir jamais le prouver. Il n'y a pas de traces. Nous ne savons pas. Tout se passe comme si, mais nous ne sommes pas assurés que les choses se sont passées ainsi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en mai 68, la masse des étudiants et nous-mêmes étions absolument ignorants de tout ça. Et beaucoup d'entre nous se sont fait piéger complètement. Les assemblées générales, alors ça vous connaissez sans doute la plupart, la mécanisme des assemblées générales. Il y a une masse d'imbéciles rassemblés dans un amphi qui ont été convoqués à grand son de trompe. Des orateurs se succèdent qui tiennent à peu près tous le même discours. Il y a un opposant de service qui est dans le fond, mais qui très vite cède la place. Et puis il y a trois ou quatre compères qui sont dispersés dans l'assemblée et qui tiennent le même langage. Bon, et puis la technique consiste à faire durer tant qu'on peut. Et puis quand il y en a un certain nombre qui sont partis, on fait voter, on truque le vote, bien sûr, on fait passer des chapeaux dans lesquels il y a déjà des bulletins. Enfin, ça, c'est tout ça, ça marche. Puis la grève est automatiquement votée à la fin de l'Assemblée générale ou reconduite. Puis ça peut durer comme ça définitivement. Puis il faut tous les jours faire des assemblées générales. Tous les jours. C'est très important. Pour entretenir la ferveur révolutionnaire. Ça aussi. Il ne faut pas que les gens se fatiguent. Alors ça, on ne le savait pas tout ça. On s'en est aperçu au bout d'un certain temps. Alors on a donné des consignes, mais il n'y a eu aucune résistance. Aucune. D'ailleurs, écoutez, en décembre 86, il n'y en a pas eu non plus. Finalement, il y a eu quelques entreprises, quelques étudiants courageux qui ont essayé de maintenir l'enseignement, bon, mais ils ont été très vite mis dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit par la marée. Phénomène de marée qui submerge complètement tout.
Il y a aussi qu'en 86, on avait
vu
que les droits d'inscription
avaient augmenté. Oui, alors ça c'est le faux bruit. Faux bruit. Oui, doublé, décuplé même. Décuplé.
Une majorité de grévistes.
Voilà, c'est ça. Alors maintenant, d'ailleurs, on peut dire n'importe quoi aux étudiants. Ils le croient. N'importe quoi. On peut dire, par exemple, que les 4/5 des étudiants seront collés à la fin de la première année. Mais ils le croiront. Tout est possible. Les examens étaient rapides, puis alors surtout, ils ont été brillants.
J'ai passé le bac en 24 heures, l'oral, à 17 heures, on avait
eu. Ah oui, oui. Mais la plupart des examens ont eu lieu, et les concours de recrutement aussi, l'agrégation, le CAPES ont eu lieu. Et alors là, il y a eu des promotions fantastiques. Alors ça a compté aussi pour la démobilisation, tout ça. L'examen donné à 99% à Nanterre, je crois qu'on a reçu tout le monde. Alors, ça a compté. Bien sûr. Ça a été la prime. On a touché la prime. Le retour de l'essence, d'abord, à l'ascension. Ensuite, les examens, ben, ça suffit. Ça suffit. Et puis les vacances, bien sûr. Voilà. Oui, il a été approché. Pourquoi faire des révolutions en mai, c'est pas tellement indiqué dans un pays comme la France. Au cas où les choses se prolongeraient, il vaut mieux. C'est pour ça que la date de décembre n'était pas mauvaise, mais elle n'était quand même pas bonne parce que c'était Noël. Ouais. Ben oui. Voilà. Mais je pense que décembre 86, c'était aussi une sorte d'exercice. Exercice de malheur, de grande malheur. Il faut de temps en temps voir ce que ça peut donner sur la masse. Ce sont des malheurs, puis on arrête le jour, on a décidé d'arrêter. On arrête les frais, on dit, bon, mais ça suffit comme ça. C'est de répétition en répétition, finalement, il n'y a pas besoin de faire la révolution. C'est vrai. Et alors, actuellement, je ne vais pas parler de la situation actuelle, mais certains qu'actuellement, alors là, enfin, je le disais il y a un instant, tout est possible. On l'a bien vu en décembre 86. En 68, les étudiants ont eux-mêmes, on peut le dire, enfin si, bien sûr, il y a eu des influences extérieures, il y a eu des manipulations, il y a eu des militants communistes qui se sont infiltrés, bon. Mais il y a eu quand même, de la part des étudiants, une participation véritable au mouvement. Ils ont eux-mêmes rédigé leurs tracts, rédigé leurs affiches, fait leur propagande, tenu des discours, et souvent avec talent. Et en décembre 86, on n'a quand même pas vu tout ça. Ou beaucoup moins. Ce qu'on a vu en décembre 86, c'est une durée de temps effroyablement brève, la contagion révolutionnaire se propageait à une vitesse extraordinaire. Et cela, à cause non pas des forces révolutionnaires étudiantes, mais à cause de la manipulation de l'opinion publique. Ce sont les médias, je pense que ceux qui ont vécu ce mouvement de 1486 ne me contrediront pas, ce sont les médias qui ont fait... Alors les médias ont joué un rôle amplificateur en mai 68, mais n'ont pas déclenché, n'ont pas eu ce rôle si important. Alors, finalement, la clé, elle est dans les médias, actuellement. Il n'y a pas à faire beaucoup. Surtout sur une jeunesse qui ne lit plus, qui ne lit même pas les journaux. Depuis 10 ans, je ne sais pas si vous voyez des étudiants lire des journaux, mais moi, je n'en voyais pas. J'en ai vu deux l'autre jour à Lille, lire des journaux. J'étais stupéfait. C'était le monde. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'était mieux que rien dans un sens. Et les autres ne lisent pas les journaux. Ils ne lisent pas de livres, bien sûr, ça y est depuis longtemps. Mais les journaux ne savent pas ce que c'est. Et alors, ils sont extrêmement sensibles aux médias, télévision, radio. Surtout radio, je pense. Alors qui tient les médias? Ben, il tient. Alors actuellement, nous sommes dans une situation tout à fait explosive, comparable. Nous avons combien d'étudiants? Plus d'un million maintenant. Plus d'un million, nous avons 600 000 en 68, donc l'effectif a presque doublé. Et nous sommes dans une situation comparable à celle de 68 en ce qui concerne l'inadaptation des locaux, qui compte beaucoup. C'est un fait qui compte beaucoup. Trop de monde dans un espace restreint, et surtout dans un monde qui est aussi peu agréable que possible. Conditions de vie très déplaisantes, dans des amphithéâtres minables, dégoûtants, couverts d'affiches, dans des couloirs infects, encombrés à Nanterre, encombrés par des marchands de merguez, de cacahuètes qui sont là, qui vous empêchent d'entrer dans votre amphithéâtre parce qu'ils sont là, leur tapis étalé avec leurs affaires. C'est ça. Et bon, alors il y a quelques lieux privilégiés, à Angers ne sont pas trop mal, bon, mais à Lille c'est épouvantable, ce sont des énormes casemates couvertes d'affiches ignobles, avec des inscriptions souvent même blasphématoires sur les murs, donc le temple du savoir est profané tous les jours. Alors, nous sommes dans une situation comparable. Au point de vue de l'inadaptation des locaux, de leur caractère déplaisant, c'est comparable. Et puis alors l'explosion non pas démographique, mais l'augmentation effrayante du nombre des étudiants. Alors là, la machine peut sauter. Seulement, l'ignorance où sont beaucoup d'étudiants est aussi une sorte de garantie. Ils ne sont pas capables de faire la révolution eux-mêmes. Ils ne la feront que si on leur dit de la faire. Alors, tout est entre les mains des forces révolutionnaires réelles de la nation. Alors nous avons quand même, maintenant, nous savons, nous sommes informés, nous savons ce qui en est. Je ne dis pas qu'on pourrait prévenir, mais on pourrait quand même mieux résister. Sans doute. connaît tout ça. Et puis alors les mouvements de droite, quand même, sont mieux organisés, tout au moins certains, qu'ils ne l'étaient en 68. En 68, je vous ai cité Gauchon. Gauchon me disait que, j'avais noté ses propos, il y avait la Restauration nationale, quelques dizaines de militants, c'est-à-dire les militants d'Affaires de la France en 68, quelques dizaines de militants sur Paris, c'est tout. Occident, 50 militants actifs. Et puis c'est tout.
Il y a pas le GUD.
Le GUD, c'était pratiquement rien. C'était une émanation d'Occident. C'était quasiment rien. Et c'était au point qu'au début 68, la droite traditionnelle, qu'on appelle l'extrême droite, n'avait pas pu faire élire un seul conseiller au conseil municipal de Paris. C'est à ce point-là. Il n'y avait plus rien. La situation d'aujourd'hui est quand même un peu différente. Au point de vue politique, on est quand même dans... C'est mieux. C'est un peu mieux. Voilà. Voilà. Oui. Oui, il y a le livre de Dansett, mai 68. Mais... c'est un livre qui est incomplet, enfin, qui est très conformiste. C'est le seul, finalement. Et je vous avais dit, j'avais fait une plaquette qui, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Et je ne sais pas où elle est, c'est une rareté bibliographique. Parce qu'elle est à la Bibliothèque nationale, mais moi, je ne l'ai plus. Ça s'appelle « Trois semaines vécues à la Sorbonne ».